9 juillet 2018, et voici votre revue de presse avec, pour vous servir au micro et en remplacement d'Hélène Denis, François Brodeur. Or donc, qui suis-je pour espérer changer les traditions chères à cette émission? Alors, on va donc commencer avec les éphémérides de Jean-Sébastien. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire au cours du 9 juillet?
Ah, je sais que vous êtes curieux, François, de savoir tout ce que le 9 juillet nous réserve. On va commencer par souligner le 9 juillet comme étant la journée de la destruction des armes légères, telle que décrétée par l'Organisation des Nations Unies.
Des promesses.
Et ce qu'on entend par armes légères, bien sûr, c'est qu'à contrarie des armes de destruction massive. Les événements marquants en ce 9 juillet 1540, le roi Henri VIII, Henri le Terrible, celui qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang, le roi d'Angleterre fait annuler son mariage avec Anne de Clèves par la convocation de Canterbury et de York. 1706, le navigateur Pierre Lemoine d'Iberville est inhumé à La Havane. 1793, toujours un 9 juillet, le Haut-Canada interdit l'importation d'esclaves. Ce qu'on peut prendre comme quand même une bonne nouvelle. La loi prévoit que les enfants seront libres à 25 ans, mais que leurs parents resteront esclaves. Donc, bonne nouvelle, quoique, le commerce restera légal.
Il faut voir ça comme une atténuation quand même. C'était un net progrès à l'époque.
C'était un gain, il faut le dire. Le commerce d'esclaves restera légal, lui, au Bas-Canada jusqu'en 1804, au Haut-Canada en 1811. 1843, lancement à Montréal du premier navire-vapeur construit en fer au Canada, le Prince Albert. 1877, premier tournoi de tennis tenu à Wimbledon. 1900, ouverture de la Banque provinciale du Canada, qui s'unira à la Banque canadienne nationale en 1978. La fusion des deux formera la Banque nationale. 1920, toujours un 9 juillet, Louis-Alexandre Taschereau devient premier ministre du Québec et il le restera jusqu'à ce que Maurice Duplessis le batte en août 1936, donc un petit règne de 16 ans pour M. Taschereau. 1922, le nageur américain Johnny Westmuller franchit les 100 mètres à la nage, donc en 58,6 secondes, le premier à avoir officiellement brisé la barrière de la minute pour 100 mètres à la nage. 1940, menacé d'invasion, la Roumanie s'allie à l'Allemagne nazie. 1944, en Normandie, les forces alliées libèrent Caen. 1952, encore un 9 juillet, parti de Calgary, un premier train à traction diesel atteint la Colombie-Britannique. En 1958, un affaissement de terrain en Alaska provoque une vague haute de 500 mètres. Je ne savais pas que les vagues pouvaient atteindre 500 mètres. Un demi-kilomètre de haut, c'est considérable. 1962, Bob Dylan enregistre la pièce « Blowin' in the Wind ». 1963, création d'une fédération qui regroupe la Malaisie, Singapour, le Sarawak et le Sabah. Alors, cette fédération qui porte un nom bien singulier, la Fédération Malaise. Bien sûr, pour la Malaisie, quoi qu'on peut y voir un double sens. 1963, toujours au Québec cette fois, un comité de refonte du Code civil suggère que la femme mariée obtienne l'égalité juridique. 1991.
Ce qui est devenu un fait en 81, soit dit en passant.
Ça n'a pris que quelques décennies. 1991, l'Afrique du Sud est réintégrée dans le mouvement olympique. En 2011, le Soudan du Sud proclame son indépendance et devient le 193e pays reconnu par les Nations Unies, ainsi que le 54e État africain. Et finalement, en 2015, la Maison olympique canadienne est inaugurée officiellement à Montréal.
Puisque je me sens l'obligation de donner quelques bonnes nouvelles, je signale à nos auditeurs que, contrairement à ce qu'on pense souvent d'Henri VIII, Anne de Clèves est restée une bonne amie du roi après son divorce. Voilà, non, mais on prend ce qu'on veut pour une fois qu'il lui coupait pas la tête. Allez, on voudrait que l'été ne nous amène que des bonnes nouvelles, des nouvelles légères, des nouvelles de festivals, des nouvelles de vacances. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et on va commencer tout de suite en vous lisant les pages de la presse. Pour commencer, une nouvelle de Philippe Tessera, Le Sart. Incendie de forêt, 200 pompiers en renfort au Québec. Le nombre d'incendies qui font rage au Québec a grimpé en flèche dans les derniers jours, étirant au maximum les ressources de la SOPFEU et obligeant l'organisation à faire appel à 200 pompiers de l'extérieur. Ces renforts portent à 600 le nombre total de sapeurs envoyés à l'assaut des flammes dans la province. Notre activité a augmenté dans les derniers jours, notamment en raison de la foudre, a rapporté Isabelle Gariépy, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU. On a une soixantaine d'incendies en activité. La plupart d'entre eux sont contenus ou maîtrisés, mais ça demande quand même du travail pour en arriver à l'extinction. Ce n'est toutefois pas le cas pour un nouveau brasier qui s'est déclaré à 35 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon, à la limite entre l'Abitibi et le nord du Québec. Il est toujours considéré comme hors contrôle. Nous estimons sa superficie à 1000 hectares, a indiqué la SOPFEU. La ville n'est toutefois pas menacée. La fumée qui se dégage de cet incendie pourrait se faire ressentir dans d'autres régions du Québec. Environ la moitié des incendies détectés se trouvent au nord du 51e parallèle et sont simplement surveillés par la SOPFEU, à moins qu'ils ne menacent des communautés ou des infrastructures. Les autres sont activement combattus. On dénombre 357 incendies de forêt depuis le début de la saison, 365 depuis le début de l'année, contre une moyenne de 276 dans les 10 dernières années. Mince consolation, le nombre d'hectares de territoires brûlés est plus petit que la moyenne. Étant donné la situation, on a demandé d'avoir de l'aide d'autres provinces et d'États américains, a continué Mme Gariépy. Les plus gros contingents proviennent de l'Alberta, 60 pompiers, et du Nouveau-Brunswick, 41 pompiers. Le Maine, le New Hampshire et le Massachusetts en ont envoyé une vingtaine chacun, tout comme Parc Canada et la Saskatchewan. Ces deux derniers groupes viennent tout juste d'arriver au Québec. Terre-Neuve et Labrador et l'Alberta ont aussi fourni des avions spécialisés. Ce n'est pas seulement le nombre d'incendies qui a poussé la SOPFEU à tirer la sonnette d'alarme pour obtenir des renforts. Les conditions météo et le fait que des feux allumés par la foudre peuvent couver plusieurs jours et être découverts tardivement motivaient aussi la décision. Plus de la moitié des hectares de forêt brûlés jusqu'à maintenant l'ont été dans l'incendie de Labriville sur la côte nord. Sa périphérie fait 111 km, donc beaucoup d'effectifs doivent y travailler, a indiqué Mme Gariépy. On a 8 sections, donc près de 150 personnes qui y travaillent. Les pompiers forestiers poursuivent leur progression sur le terrain avec l'aide d'hélicoptères pour le survol du feu et également pour l'arrosage, a ajouté la SOPFEU sur les réseaux sociaux. Les équipes ont consolidé une bonne portion dans le secteur nord du feu ainsi qu'une autre dans la partie sud. Depuis le 5 juillet, de l'équipement mécanisé travaille au sud du feu pour bloquer toute progression. La nouvelle internationale qui nous tient tous sur le bord de nos chaises, c'est le sort de cette équipe de soccer masculin qui s'est retrouvée coincée dans une grotte par la montée des eaux en Thaïlande. Donc, l'agence France-Presse fait le point, Maesai pour être plus précis. Grotte en Thaïlande, 4 autres garçons rescapés lundi. Les sauveteurs tentant d'évacuer les joueurs de soccer encore pris au piège dans une grotte inondée de Thaïlande ont réussi l'évacuation de 4 autres garçons au lendemain de l'extraction réussie des 4 premiers par des plongeurs d'élite. « Dans quelques heures, nous aurons des bonnes nouvelles à annoncer », avait assuré le chef de la cellule de crise, Narongsak Osotanakorn, habituellement très prudent, vers 15h, 4h, heure de Montréal. Le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande depuis un coup d'État en 2014, le général Prayut Chan-o-cha, est attendu sur place dans l'après-midi. La Thaïlande tout entière espérait une issue heureuse pour les enfants et leur entraîneur de 25 ans bloqué depuis le 23 juin dans la grotte de Tuam Luang, dans le nord de la Thaïlande. La saga passionne aussi les médias étrangers qui ont envoyé des centaines de journalistes sur place. La pluie de mousson menaçant d'inonder ce réseau souterrain complexe, long d'une dizaine de kilomètres, constitue le principal défi pour les sauveteurs qui redoutent de nouvelles précipitations avant la sortie de tout le groupe. L'équipe de soccer des Sangliers Sauvages, 12 garçons de 11 à 16 ans et leur jeune entraîneur, avaient passé 9 jours dans les tréfonds de la grotte avant que 2 plongeurs britanniques ne réussissent à les rejoindre en début de semaine dernière. émaciés mais en vie, ils étaient perchés sur un promontoire à plus de 4 kilomètres de l'entrée de la grotte. Dimanche, 4 garçons ont revu la lumière du jour grâce à des plongeurs expérimentés qui les ont guidés le long d'un parcours tortueux marqué par des portions inondées et étroites, en particulier un passage très difficile à franchir dans lequel il faut se faufiler et qui est le cauchemar de la cellule de crise. Baptisés par les réseaux sociaux « Sangliers sauvages 1, 2, 3 et 4 », les 4 garçons hospitalisés vont bien, a précisé Narongsak Osotanakorn, même s'ils sont tenus à l'écart de leurs parents afin d'éviter qu'ils ne soient contaminés vu leur état de faiblesse. Les médecins envisagent de permettre aux familles de leur rendre visite, mais séparés par une vitre, a-t-il dit. Les équipes de plongeurs ont dû se reposer entre les 2 évacuations et replacer des bouteilles d'oxygène le long du parcours, d'où l'intervalle entre les 2 évacuations. « Nous avons travaillé toute la nuit », a déclaré à l'AFP un responsable de l'administration de la province de Chiang Rai, confirmant qu'il n'y avait eu qu'une pause dans l'opération d'extraction elle-même. Les parents des derniers à sortir attendent à l'entrée de la grotte d'être réunis avec leurs enfants. « J'attends toujours ici, à la grotte, je croise les doigts », a dit à l'agence France Presse Supaluk Sumpieng Jai, la mère de Firapat, communément appelée par son surnom, Knight. Outre les embûches le long du parcours de plongée, la situation est compliquée par le fait qu'une bonne partie des enfants ne savent pas nager et qu'aucun n'a jamais fait de plongée. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise y a laissé la vie, témoignant de la très grande difficulté de l'entreprise, même pour des professionnels. Le manque d'espace ajoute aussi à la complexité des opérations, alors que les sauveteurs doivent placer suffisamment de bouteilles d'oxygène sur le parcours de sortie. Des ambulances sont arrivées lundi matin, près de l'entrée de la grotte. Les hordes de journalistes accourus des 4 coins de la Thaïlande et de la planète sont tenus à l'écart de la grotte, de même que de l'hôpital de Chiang Rai, où les 4 rescapés ont été placés en observation. On reste dans l'international. On s'est plaint ici de la canicule. Eh bien, sachez qu'au Japon, c'est la pluie qui fait des ravages. L'agence France Presse nous rapporte, c'est le titre, « Pluie au Japon, au moins 100 morts, difficiles opérations de secours ». Et il faut savoir qu'au Japon, les opérations de secours sont fréquentes, que c'est un pays préparé pour ce genre d'occasion. Alors, on a une idée de la gravité de la chose. Les secouristes s'efforçaient lundi de retrouver des disparus dans des quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'ouest du Japon où ont déjà péri au moins 100 personnes après des pluies torrentielles. Face à la gravité de la situation, le premier ministre Shinzo Abe a décidé, selon les médias, d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie Saoudite et Égypte pour donner la priorité aux sinistrés. Dans le détail, 87 personnes sont mortes et 13 en état d'arrêt cardiaque et respiratoire, expression qui signifie que leur acte de décès n'a pas encore été signé, a indiqué lundi le porte-parole Yoshihide Suga lors d'un point de presse. Dans la ville de Kumano, connue de par le monde pour ses pinceaux de maquillage, d'énormes glissements de terrain ont emporté des maisons qui ne sont plus que monceaux de bois, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. Le soleil brûlant commençait à dessécher la boue. Équipés d'engins de chantier, de pelles ou tronçonneuses, les sauveteurs cherchaient les traces d'une 12aine de résidents manquant à l'appel. « Nous sommes en train d'enlever les débris avec du gros matériel là où nous le pouvons. Nous déblayons aussi des maisons détruites, sans quoi il est impossible d'atteindre d'éventuels survivants coincés dessous », a expliqué un militaire. « J'aurais aimé que ma sœur et ma famille évacuent plus tôt », se désole Kosuke Kiyohara devant la maison saccagée de proches portés disparus. Un peu partout, en revenant dans leur maison sinistrée après la fin de la pluie, les habitants ont commencé à réaliser l'ampleur du désastre, avec des quartiers entiers noyés, des habitations sans dessus-dessous, des voitures gisant dans des cratères de route totalement effondrés, des glissements de terrain gigantesques, des ponts emportés et autres scènes de désolation. Dans la ville de Kurashiki, province d'Okayama, plus personne ne semble demander de l'aide depuis les toits ou terrasses d'immeubles de cette cité, selon les observations effectuées par hélicoptère, a indiqué à l'agence France-Presse lundi matin un secouriste. Les sauveteurs se déplaçaient avec des bateaux hier en raison de l'ampleur des inondations, mais l'eau se retire progressivement aujourd'hui et si le niveau baisse suffisamment, ils pourront accéder aux zones durement touchées par la route ou à pied, a aussi expliqué à l'agence France-Presse par téléphone une porte-parole du bureau de gestion des catastrophes de la préfecture d'Okayama. Il ne pleut pas aujourd'hui, mais nous devons rester vigilants contre les coulées de boue, a-t-elle insisté. Il s'agit d'une des plus graves catastrophes de ce genre des dernières années au Japon, avec un nombre de victimes qui dépasse désormais celui enregistré lors du glissement de terrain à Hiroshima en 2014 avec 74 décès. Il faut désormais remonter dans les annales au passage de deux typhons en août-septembre 2011 pour trouver un sinistre comparable, une centaine de morts. L'état d'alerte maximum a été levé partout dimanche dans la journée, mais des avis de niveau inférieur sont maintenus.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Retour au 9 juillet 1962, date à laquelle M. Bob Dylan a enregistré cette chanson, son premier succès et pièce de protestation qui fera de lui le porte-parole, le guide spirituel du mouvement des droits civiques américains.
C'est maintenant le moment de retourner dans les pages du Devoir et accessoirement dans la nouvelle locale. Et dans ce cas, c'est éminemment local, puisqu'il s'agit du syndrome « pas dans ma cour ». Jeanne Corriveau nous parle, c'est le titre de son texte, « L'emménagement d'un centre pour sans-abri dans le plateau Mont-Royal inquiète ». L'emménagement d'un centre de jour pour itinérants, la porte ouverte, « The Open Door », à l'église Notre-Dame de la Salette dans le plateau Mont-Royal suscite l'inquiétude chez les commerçants et les résidents du secteur. Ceux-ci craignent que les itinérants affluent dans le quartier à compter de l'automne. Pétition en main, des citoyens ont demandé aux élus du plateau Mont-Royal d'intervenir, mécontents que l'arrondissement ait pu permettre à l'organisme de s'installer dans leur quartier. Ah, je ne suis pas contre les sans-abri, mais est-ce que c'est le bon endroit? A demandé l'un d'eux lors de la séance du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal mardi dernier. Ils appréhendent l'arrivée de 100 à 200 itinérants et craignent une hausse des incivilités après la fermeture du centre à 17 heures. Le centre La Porte Ouverte offre depuis 30 ans des services pour les itinérants dans l'église anglicane Saint-Stephen, à l'angle du boulevard Dorchester et de l'avenue Atwater. L'organisme sert des repas, met des douches et des toilettes à la disposition des itinérants et propose notamment des services d'accompagnement pour les sans-abri d'origine inuit, qui représentent environ 40 % de la clientèle. Mais l'église Saint-Stephen a été vendue à un promoteur immobilier et La Porte Ouverte n'a eu d'autre choix que de se chercher un autre site. À l'église Notre-Dame de la Salette, sur l'avenue du Parc, on a accepté de lui louer le sous-sol. L'organisme a commencé les rénovations et ouvrira ses portes en septembre. Les services seront offerts aux itinérants de 7h30 à 17h du lundi au vendredi. « Je m'inquiète autant que vous », a indiqué au citoyen le maire Luc Ferrandez. « Ce n'est pas un projet de l'arrondissement, ce n'est pas un projet de la ville. C'est un projet privé entre une église et un organisme de charité. L'arrondissement n'a rien à dire. On n'a aucun moyen pour empêcher l'arrivée de ce projet. Aucun. » Le directeur par intérim de La Porte Ouverte, David Chapman, n'est pas étonné des appréhensions exprimées par les citoyens. « Ça a été la même réaction dans tous les quartiers où on a cherché un local », explique-t-il. Depuis un an, M. Chapman s'est mis en quête d'une nouvelle adresse. D'abord, ça a été dans le secteur du Square Cabot. J'ai visité des douzaines de sites, mais ça a été plus difficile que prévu. Les loyers étaient très chers. De plus, la plupart des propriétaires ne souhaitaient pas louer un espace à un centre pour itinérants. Les locataires potentiels le félicitaient pour l'œuvre accomplie auprès des sans-abri autochtones, mais ils n'étaient pas prêts à les accueillir pour autant, a-t-il indiqué. L'église Notre-Dame de la Salette a toutefois accepté. Au début, David Chapman ne trouvait pas le site adéquat jusqu'à ce qu'il réalise que plusieurs des itinérants qu'il aidait étaient déjà présents dans ce secteur du plateau. Il est difficile de prédire combien d'usagers fréquenteront le nouveau site, mais il n'y aura pas des centaines de personnes qui viendront de notre centre actuel, affirme-t-il. Plusieurs mesures seront aussi mises en place pour assurer une meilleure cohabitation. Une équipe nettoiera le voisinage de façon régulière, promet M. Chapman. À la fermeture du service à 17 heures, un autobus de la mission Old Brewery pourra ramener les itinérants au refuge pour la nuit et un intervenant sillonnera le quartier en soirée, ajoute-t-il. Une entente est aussi intervenue avec Projet Autochtone du Québec qui pourra héberger davantage de sans-abri la nuit venue. Dur coup pour le nouveau Parti démocratique, puisque Hélène Laverdière du NPD quitte la politique fédérale, ce que rapporte Marie Vastel dans Le Devoir. Le nouveau Parti démocratique perd un de ses gros joueurs au Québec, la députée montréalaise Hélène Laverdière, qui avait détrôné Gilles Duceppe en 2011, quittera la politique fédérale l'an prochain. L'élue de Laurier-Sainte-Marie ne sera pas candidate au prochain scrutin fédéral prévu à l'automne 2019, a appris Le Devoir. La raison est très simple. En 2019, je vais avoir 64 ans. J'ai envie de prendre une pause un peu et je trouve que c'est important de laisser la place à d'autres, à du sang neuf, a-t-elle expliqué au Devoir. Madame Laverdière, qui a fait carrière au ministère des Affaires étrangères, en avait étonné plusieurs en 2011 en se faisant élire dans le bastion bloquiste de Laurier-Sainte-Marie et en y délogeant le chef du parti, Gilles Duceppe. L'élu néo-démocrate a répété l'exercice en 2015 en battant à nouveau M. Duceppe avec une fois de plus 5000 voix d'avance sur son rival bloquiste. Les perspectives électorales du NPD sont toutefois bien moins prometteuses cette fois-ci. Le nouveau chef Jack Meet Singh peine à recevoir les appuis de l'électorat dans les sondages et le parti a perdu des plumes lors des trois élections partielles tenues au Québec depuis un peu plus d'un an. Hélène Laverdière nie que cela ait influencé sa décision de quitter la politique fédérale. Elle assure qu'elle appuie toujours le chef, qu'elle avait soutenu lors de la course à la chefferie du parti et qu'elle a confiance que les choses se redresseront d'ici octobre 2019. Reste que les récents sondages placent les appuis du NPD autour de 15 % au Québec, soit 10 points de moins que les résultats électoraux de 2015 qui avaient permis aux néo-démocrates de faire élire 16 députés au Québec. Certains prédisent que le parti perdrait la majorité, sinon la quasi-totalité de ses sièges l'an prochain. Les néo-démocrates rétorquent que la circonscription de Laurier-Sainte-Marie est l'une des places les plus sûres du parti, tout comme sa voisine Rosemont-la-Petite-Patrie. Vendredi, le député ontarien David Christopherson annonçait qu'il ne serait pas candidat aux élections de 2019, lui non plus. Il avait été élu en 2004 au fédéral après avoir été ministre et député sur la scène provinciale de l'Ontario. Ah, c'est l'été, on dort les fenêtres ouvertes. Vous est-il déjà arrivé de vous faire réveiller au beau milieu de la nuit par une moto qui pédarade dans la rue? Eh bien, sachez que Québec entend prendre des mesures. Les motos bruyantes dans la mire de Québec, c'est le titre d'Hélène Buzetti. Faire du bruit à moto au Québec pourrait devenir chose du passé, du moins si le gouvernement passe comme prévu à l'action et pérennise l'utilisation des sonomètres pour mesurer les décibels crachés par les pots d'échappement des bolides à deux roues. Mais les associations de motocyclistes s'inquiètent. Officiellement, il est interdit de circuler avec un véhicule dont le silencieux ou tout autre élément du système a été modifié pour émettre plus de bruit que ce qui est prévu par le fabricant. La limite de son permis est de 100 décibels pour les voitures comme pour les motos. Au Québec, un motocycliste s'expose à une amende de 200 à 300 $ si son système d'échappement n'est pas conforme. Mais voilà, les policiers ne disposaient pas d'un outil fiable pour effectuer la mesure. Ils se fiaient à leur « oui » ou au test de la broche, consistant à entrer une tige métallique dans le pot d'échappement. Un policier ne rencontrant aucun obstacle, un « straight pipe », si vous me permettez le latin, concluait que le système avait été modifié. En 2013, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, a donc lancé un projet pilote afin de tester l'utilisation de sonomètres. L'appareil, lorsqu'utilisé dans des conditions optimales, placé à 50 cm du pot d'échappement dans un angle de 45 degrés, le tout dans un espace dégagé, permet de déduire à partir du son émis par le véhicule immobilisé le son qu'il émet en accélération. Le projet pilote d'une durée de 5 ans s'est terminé en mai dernier. Au total, 2893 motos ont été vérifiées pendant cette période et 1230 ont écopé d'une contravention pour un taux d'infraction de 43 %. C'est suffisamment convaincant pour que Québec formalise le projet pilote et inclut donc le sonomètre dans les pratiques de la police.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Ne fais pas
On reste dans les années 60 ce matin, mais cette fois en 1966, avec la pièce « L'argent ne fait pas le bonheur » par la formation Les Parisiennes. C'est une pièce écrite par Franck Gérald et la musique a été composée par Claude Bolling.
Alors, on vient d'apprendre que l'argent ne faisait pas le bonheur et il faudrait peut-être le répéter aux médecins spécialistes puisque dans les pages du Journal de Montréal, Éric-Yvan Lemay nous indique, c'est le titre, les primes des médecins en hausse malgré la controverse. Les controversées primes versées aux médecins spécialistes sont loin d'être disparues avec l'entrée en vigueur de la nouvelle entente avec le gouvernement. Certaines d'entre elles viennent même d'augmenter, a pu constater notre bureau d'enquête. Ces hausses découlent de l'entente sur le rattrapage salarial conclue en mars entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ. Les spécialistes, qui gagnaient déjà 455 000 $ par année en moyenne, ont obtenu une augmentation salariale totalisant 2 milliards de dollars. À la suite de cette entente, les honoraires pour des dizaines d'actes médicaux ont subi une hausse d'environ 5 % depuis le 1er juillet. C'est le cas de plusieurs primes qui ont déjà été décriées depuis des mois. La fameuse prime d'assiduité, versée aux chirurgiens qui arrivent avant 8 heures au bloc opératoire, est ainsi passée de 105 à 110,85 $. Si la journée du chirurgien se prolonge après 15 heures, sa prime passe de 21 à 22,15 $ par 15 minutes supplémentaires. La prime pour les réunions passe de 200 $ de l'heure à 211 $. Même les montants versés pour le temps de déplacement des médecins spécialistes ont augmenté de 6 $ pour passer de 109 à 115 $ de l'heure. Pour Damien Contandriopoulos, qui a publié une étude sur la rémunération des médecins, la récente hausse n'a rien de surprenant. Tout continue comme avant. Ils n'ont absolument rien compris, dit le professeur à l'école d'infirmières de l'Université Victoria. Selon lui, la FMSQ n'a pas tenu compte de la grogne concernant la rémunération de ses membres. Ils ont l'impression d'un acharnement médiatique, alors que le fond du problème est le modèle de rémunération. Il n'y a eu aucune remise en question, dit-il. L'expert trouve particulièrement maladroite l'augmentation de certaines primes controversées. Même la prime jaquette, voyez-vous, c'est la prime que reçoit un spécialiste qui doit nécessairement mettre une jaquette ou un masque ou des gants avant d'entrer dans la chambre du malade, tout comme l'infirmière qui, elle, n'a pas évidemment de prime pour ça. Que la présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, avait promis d'abolir, continue d'être en vigueur pour le moment. Madame Francoeur rappelle que les hausses récentes font suite à l'entente sur le rattrapage salarial initié en 2006 qui a fait bondir les salaires des spécialistes. Ces hausses devaient entrer en vigueur il y a 2 ans. Ce sont des augmentations qui étaient dues pour arriver en 2016, mais c'était resté en stand-by au gouvernement, souligne Diane Francoeur. Selon elle, il n'y aura pas d'autre hausse pour la plupart des actes médicaux d'ici la fin de l'entente en 2023. Notez la plupart. Le regroupement médecins québécois pour un régime public espère en effet que ce sera la dernière hausse. On pense que cet argent aurait pu servir à donner de l'air au système de santé, aux infirmières, etc., dit la docteure Isabelle Leblanc. Le regroupement fait signer une pétition pour dénoncer les hausses. Elle espère avoir ouvert le dialogue et estime que les fédérations médicales doivent faire preuve de plus d'ouverture aux membres en désaccord. On sait que certains médecins qui ont signé la pétition se sont fait rappeler à l'ordre par la fédération, conclut-elle. La collecte sélective donc des matières recyclables à Montréal, ben ça va pas très bien, notamment à cause d'ennuis techniques, ce que nous apprend Anne-Caroline Desplanques. Une collecte sélective à ciel ouvert à Montréal. Un important bris d'équipement au centre de tri de Montréal oblige les camions à attendre des heures pour décharger leur cargaison, ce qui retarde la collecte sélective dans les rues de la métropole. Le centre de tri de Montréal surchauffait déjà depuis que la Chine a refusé d'acheter le contenu des bacs verts jugés de trop mauvaise qualité. Mais le 15 juin, la marmite a explosé lorsqu'une des presses à rebut a cessé de fonctionner. Depuis, le déchargement des camions a considérablement ralenti. Ça n'a aucun sens. Ça prend 3 quarts d'heure pour vider un voyage, gronde Denise Poirier de Rebut Montérégie. Quand on a 2 voyages à faire dans la journée, le deuxième, on a du mal à le faire parce que les camions sont stationnés au centre de tri. Pour les Montréalais, ceci se traduit par des retards dans la collecte sélective des matières qui s'accumulent pendant des heures sur les trottoirs. La porte-parole de la ville, Audrey Gauthier, assure que l'équipement brisé a été réparé dans la semaine du 25 juin et que la situation est revenue à la normale. Madame Poirier, elle, souligne que les délais s'accumulent depuis janvier, lui faisant perdre des milliers de dollars. « J'ai été tolérante, mais là, ce n'est plus possible. Il faut que ça se règle », dit-elle. « On a de la difficulté à respecter nos contrats aux heures prévues depuis plusieurs semaines », ajoute Martin Dussault, porte-parole du géant Waste Management. La semaine dernière, alors que le mercure frôlait les 40 degrés Celsius, l'attente atteignait 1 heure, alors que dans les autres centres de tri, c'est 20 à 30 minutes maximum, indique M. Dussault. Plusieurs chauffeurs, dont la cabine n'était pas climatisée, ne savaient plus où se mettre pour se garder au frais. « C'est inhumain », a soufflé l'un d'eux, qui souhaitait garder l'anonymat. Pendant que l'homme s'aspergeait d'eau, une nuée de mouettes affamées survolait la montagne de matière autour de lui. Au cours des 3 dernières semaines, le journal a pu observer jusqu'à 25 camions stationnés en file dans la rue menant au centre de tri derrière la Tohue. Ça nous a obligés à mettre plus de camions et plus de main-d'œuvre sur la route. Ça veut dire plus de gaz à effet de serre et plus de coûts pour nous, explique M. Dussault. Waste Management envisage de demander des compensations financières à la Ville de Montréal pour les pertes encourues. L'agence QMI nous rapporte un truc dont on se doutait bien remarquer. La légalisation du cannabis inquiète les gestionnaires en ressources humaines. La moitié des entreprises ne serait pas prête à faire face à la légalisation du cannabis et à ses impacts, selon l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, la CRHA. À 3 mois de la légalisation du cannabis, toutes les organisations devraient analyser les effets potentiels de cette légalisation sur leur milieu de travail, en évaluant les risques et notamment en ciblant les postes critiques. Elles devraient mettre en place des mesures de prévention et d'intervention selon le degré de risque. Ces mesures devraient être clairement identifiées dans une politique et communiquées à tous, a déclaré Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre. Le sondage révèle que 74 % des conseillers en ressources humaines agréés sont préoccupés d'un point de vue professionnel par la légalisation prochaine et 85 % estiment qu'il y aura effectivement des impacts ressentis dans leur milieu de travail. Par ailleurs, à l'heure actuelle, 38 % des répondants ont indiqué que l'usage de drogue par les employés est déjà un peu ou beaucoup problématique au sein de leur organisation. Sans pouvoir l'affirmer, il est probable, à l'instar des États américains qui ont légalisé le cannabis dans les dernières années, que la légalisation entraîne une hausse de la consommation chez les adultes et accentue les incidences sur les milieux de travail. Toutes les organisations seraient donc bien avisées de s'y attarder en amont, a ajouté Mme Poirier. 60 % des organisations sondées ont indiqué avoir une politique sur la question, soit exactement la même proportion que celle obtenue en octobre 2017 lors du dernier sondage. Toutefois, la seule présence d'une politique ne suffit pas à réduire les risques d'accident. Il faudra également la communiquer à tous les travailleurs et former les gestionnaires à détecter les signes révélant qu'une personne est sous l'influence du cannabis, de même qu'à bien comprendre les outils et leur latitude pour intervenir, a précisé le CRHA. Andrea Valeria a vérifié une affirmation mathématique du premier ministre Couillard, lequel disait que pour un emploi créé aux États-Unis par la guerre commerciale actuellement en cours, eh bien, il y en aurait 16 d'éliminés. Il semblerait que le chiffre soit exact. Annonçant une mission aux États-Unis pour dénoncer les tarifs protectionnistes de Donald Trump, le premier ministre Philippe Couillard a énoncé mercredi une statistique surprenante à propos des impacts des mesures du président sur l'économie américaine. Pour chaque emploi dans l'acier ou l'aluminium que ces mesures permettent de créer aux États-Unis, ce sont 16 emplois dans d'autres secteurs de l'économie américaine qui seront perdus. Les chiffres semblent démesurés, mais Philippe Couillard a raison. Selon le plus récent rapport de Trade Partnership Worldwide, une firme se spécialisant en analyse des échanges commerciaux internationaux, les États-Unis risquent de perdre 432 747 emplois, c'est pas pire pour une projection, dans différents secteurs, particulièrement dans l'industrie automobile et les manufactures utilisant beaucoup d'acier. Ces emplois sont principalement situés dans les communautés manufacturières du Sud et dans la Rust Belt, soulignent les auteurs du rapport. Ironiquement, ce sont ces États du Nord-Est américain qui ont contribué à l'élection du président Trump en 2016. Les tarifs de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d'aluminium devraient créer 26 280 emplois, soit 16 fois moins que le nombre d'emplois perdus. Ces plus récentes données datent du 5 juin et tiennent compte des ripostes tarifaires des partenaires commerciaux des États-Unis, dont le Canada. En mars, ce rapport prévoyait un ratio de 5 emplois perdus pour un emploi gagné. En 2002, le président George W. Bush avait lui aussi imposé des tarifs sur l'acier, ce qui avait causé la perte nette de 200 000 emplois seulement dans l'industrie automobile.
Changer, j'ai eu un avenir de femme libérée, où supporter le cri.
une des personnalités artistiques qui fait couler beaucoup d'encre cette année, c'était Hubert Lenoir et la pièce Fille de personne numéro 2.
On fait maintenant le tour des régions québécoises. En fait, on essaie de le faire dans le temps imparti. On commence à Québec, donc. Vous connaissez d'ailleurs la pédiatrie sociale du Dr Julien. C'est un mot qui a été mis à la mode par sa fondation. Eh bien, sachez qu'à Québec, on parle de gériatrie sociale, l'autre façon de soigner les aînés. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina. La fondation AGES Age tenait dimanche un premier rassemblement éphémère de gériatrie sociale au sympathique parvis ouvert à tous, le SPOT. La jeune discipline portée par le Dr Stéphane Lemire dans la région de Québec se distingue de plusieurs manières des services actuellement offerts en milieu hospitalier pour les aînés. Le Soleil en a profité pour faire le point avec le principal intéressé. Comme sa pratique plus traditionnelle, la gériatrie sociale a pour but premier d'aider les personnes âgées à conserver ou à retrouver le plus d'autonomie possible. Elle poursuit donc essentiellement la même mission, sauf qu'elle ne s'exécute pas du tout de la même manière. On utilise tous les outils de la gériatrie, disons régulière, car l'esprit reste le même. Mais ce qui est très différent, c'est que la dimension sociale est ancrée directement dans la communauté, avec l'apport des aînés aussi, explique M. Lemire en entrevue avec Le Soleil. On n'est pas juste dans le côté très médical où on ajuste des médicaments. On fait des diagnostics et on renvoie un peu les gens dans la brousse après. En 2016, son équipe a tenu un premier forum sur la gériatrie sociale dans la capitale. Attirant plus de 140 personnes, l'événement avait pour but de développer les assises d'une discipline encore relativement marginale à partir de l'expérience des patients dans le milieu de la santé. Ça a été un vif succès et on sent un certain engouement depuis, convient le docteur. Celui qui est également président du CA de la Fondation Age estime que des rassemblements comme celui de dimanche font connaître la discipline et lui permettent de progresser. Ça nous permet de rencontrer les aînés, de recueillir leurs préoccupations, leurs besoins et de développer la gériatrie sociale d'un point de vue très local. Le tout, bien sûr, dans un contexte ludique et amusant. La physiothérapeute Danielle Lepage, qui est également sur le conseil d'administration de la Fondation, était aussi sur place dimanche pour donner un atelier sur la préservation de la mobilité en vieillissant. Le plus important, c'est de prévenir les chutes et de leur apprendre à se relever surtout, explique-t-elle en marge de l'activité. Peu répandu jusqu'ici à travers la province, le concept de gériatrie sociale demeure en plein développement. Il existe ici et là au Québec certaines formes communautaires de gériatrie, comme des médecins de famille à domicile. Sauf que ceux-ci n'ont pas l'expertise ni les outils pour intervenir adéquatement, croit le docteur Lemire. Ces gens-là font un excellent travail avec leurs ressources, mais ils n'ont souvent pas la formation spécialisée pour intervenir ou encore les acquis pour mettre en place ce que l'expertise recommanderait au fond, explique-t-il à ce sujet. D'où l'importance, selon lui, de faire grandir la gériatrie sociale qui a justement pour but de multiplier les liens entre les intervenants dans le milieu du patient. Notre but, c'est aussi de ramener toutes les ressources dans l'écosystème de l'aîné. Donc, on parle de l'entourage, des organismes communautaires, des services du CIUSS, des CLSC. Bref, d'aller chercher tout ce dont la personne a besoin et de la connecter aux bons endroits, poursuit le professionnel. Ailleurs, dans le milieu de la santé, de beaux exemples viennent soutenir la cause de Stéphane Lemire. En pédiatrie sociale auprès des jeunes, le Dr Julien est devenu très connu pour son implication dans le milieu. Il a commencé graduellement comme ça, en faisant des activités, en faisant du repérage dans sa communauté, et l'approche est très lucide. C'est un bel exemple, illustre le principal intéressé là-dessus. L'essentiel, selon M. Lemire, est d'offrir une alternative au réseau actuel pour les personnes âgées qui ont beaucoup trop à perdre dans le milieu hospitalier actuellement. Il y a tellement de barrières à franchir actuellement pour avoir un service, dit-il. Ça fait en sorte, et je le vois dans mon travail, que plusieurs patients sortent plus amochés ou moribonds de l'hôpital qu'ils ne l'étaient avant. On les tire de leur milieu, on enlève leurs repères, donc nécessairement, c'est déboussolant pour eux et elles. Alors, on l'attendait. Michael Jean monte au front. C'est le titre du texte de Jean-Marc Salvet, également publié dans Le Soleil. C'est pour rebâtir des ponts avec le Rwanda et mieux positionner la France dans la zone anglophone de l'Afrique que le président français a donné son appui à la candidature d'une ministre rwandaise pour diriger à sa place l'Organisation internationale de la francophonie, croit-elle. Il y a de ça, certainement, affirme l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui sollicite un second mandat. En entrevue avec Le Soleil, Mme Jean rapporte que quelques jours avant la déclaration d'Emmanuel Macron, le président du Rwanda, Paul Kagame, lui a confié qu'il recevait de l'Élysée beaucoup d'appels de phare et de pression pour que sa ministre des Affaires étrangères soit candidate. Il y a quelque part un désir de deux chefs d'État de faire en sorte que leur pays se rapproche, analyse-t-elle. Et dans la balance, il y a le secrétariat général de la francophonie. Michael Jean réfute l'idée que le président Macron souhaite l'écarter en raison de dépenses jugées somptuaires qu'elle aurait autorisées ou en raison d'un problème de gouvernance à l'OIF. « Mon train de vie, c'est en fait un travail exigeant, intense, constant, 7 jours sur 7. Je ne suis pas une mondaine, je ne sors pas, je n'ai pas le temps », laisse-t-elle tomber durant l'entretien qui s'est déroulé dimanche à Québec. La gestion de l'OIF a fait beaucoup de bruit au Québec et ailleurs récemment. Le Journal de Montréal a notamment révélé l'existence d'une dépense d'un demi-million pour la rénovation et l'aménagement d'un appartement de fonction de Mme Jean à Paris et une autre dépense pour l'achat d'un piano. Un voyage en mer destiné à une centaine de jeunes a aussi fait couler beaucoup d'encre. Son coût s'élève à 1 million alors qu'il devait être de 400 000 $. Mme Jean se défend. Elle explique que lorsqu'elle est entrée en fonction à Paris en janvier 2015, l'Organisation internationale de la francophonie, sous les instructions de son administrateur d'alors, l'a installé dans un appartement appartenant au gouvernement du Canada qui était vacant. On m'y installe, mais on a aussi conscience à ce moment-là de défaillances sérieuses de ses infrastructures et de ses commodités. Il y avait eu très peu d'entretien. Les travaux découlent d'une entente entre l'administrateur et le gouvernement canadien. Avant ça, l'OIF engagea des sommes quand même considérables pour loger le secrétaire général. « Ce que nous avons réalisé, c'est une économie de 50% du coût locatif », explique-t-elle. Les premiers ministres du Québec et du Canada, Philippe Couillard et Justin Trudeau, ont appelé l'OIF à davantage de transparence, mais tous deux tiennent à ce que le mandat de Mme Jean soit renouvelé. Ils veulent qu'elle poursuive le travail qu'elle a lancé, notamment ce qui a trait à la stratégie économique développée au bénéfice des États membres, notamment en Afrique. Elle affirme avoir fait passer l'organisation qu'elle dirige à une culture de l'évaluation et du résultat, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration. Elle dit voir d'un bon œil le groupe de travail sur la transparence à l'OIF que pilote le Québec. À Sherbrooke, la maladie de Lyme inquiète, ce que rapporte Jean-François Gagnon dans la Tribune. Lorsqu'elle est diagnostiquée rapidement et traitée efficacement, la maladie de Lyme n'est pas un ennemi très redoutable pour les humains. Mais pour différentes raisons, le diagnostic n'est pas toujours facile à effectuer, sans compter qu'il existe une forme tardive de la maladie qui suscite des débats. Lumière sur un problème de santé publique parfois déroutant. Le nombre de cas de maladie de Lyme est en croissance au Québec, surtout dans les régions plus au sud. Alors que personne ne se préoccupait des cas recensés à une époque, la population s'intéresse désormais au phénomène. Même l'Assemblée nationale a tenu une commission parlementaire récemment pour mieux comprendre la situation et s'assurer que le système de santé répondait adéquatement aux besoins. Au terme de leurs travaux, les membres de cette commission parlementaire ont demandé au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec d'en faire davantage et ont plaidé en faveur d'une amélioration de la formation des médecins en lien avec ce mal propagé par des tiques infectées. Restez avec nous, on fait une petite pause et on se retrouve pour des nouvelles culturelles.